14h-15h sur Europe 1.
La voie est libre.
La voie est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio, direction les pôles. Enfin, par les livres, nous partons visiter la bibliothèque de Nicolas Vanier à l'occasion de la publication de son roman Poli et de son adaptation au cinéma. Bonjour Nicolas Vanier.
Bonjour.
Alors je suis très content parce que je vous ai croisé dans les couloirs d'Europe 1. Je vous ai entendu parler de Pêche à la mouche. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, évidemment, Nicolas Vanier, forcément, il aime les romans de pêche à la mouche et de littérature américaine qui parlent de tout ça, de ces grands espaces. Et j'étais curieux de visiter votre bibliothèque. Vous m'avez dit oui tout de suite. Le problème, c'est que là, on est à Paris, mais c'est un pied-à-terre ici. C'est pas, vous ne vivez pas à Paris.
Non, heureusement, parce que je serais très malheureux. Non pas que j'aime pas Paris, mais j'aime à toute petite dose. J'aime à toute petite dose, d'une façon générale, la ville. Et heureusement, j'ai trouvé ici, dans le 10e, un petit pied-à-terre où il y a un tout petit soupçon de ce que j'aime. Beaucoup de tranquillité, un petit peu de vert. Et puis, bah, c'est ici que un ou deux jours par semaine, j'essaye de jamais faire trois. Je travaille avec des réunions qui doivent et ne peuvent se faire qu'à Paris.
Je précise quand même pour les auditeurs qu'on est en rez-de-chaussée sur cour, il y a des enfants qui jouent, c'est super, on entend des rires d'enfants en même temps.
Oui, oui, c'est très agréable.
Tout, ici,
parfois il y a des bruits de ping-pong, parfois il y a des enfants.
Alors justement, commençons par là, par l'enfance. Je vois un livre de la Bibliothèque Verte, qui est un livre donc, de collection jeunesse, et c'est pas n'importe lequel, c'est Belle et Sébastien de Cécile Aubriesque. C'est un livre que vous... Alors, vous avez une version à vous de Belle et Sébastien.
Ça doit faire partie d'un des 10 premiers livres que j'ai lu étant enfant. Qui m'a effectivement profondément marqué parce que c'était déjà une histoire qui me concernait, si je puis dire, puisque c'était une histoire de chien, d'un enfant et de la nature. C'est tout ce qui a été ma vie, des chiens, la nature et des enfants. Et donc, c'est pour cela que j'ai eu tellement d'émotions lorsqu'on m'a proposé effectivement de réaliser 40 ans plus tard un film long métrage se basant sur l'ADN, on va dire, de ce que Cécile Aubry avait écrit à l'époque.
Alors justement, il n'y en a pas là, mais il n'y a pas toute votre collection, puisque je rappelle que c'est votre pied-à-terre. Heureusement, il y a déjà quelques bons livres pour tenir quelques semaines, mais il n'y a pas les grands romans de pêche à la mouche, et vous êtes pêcheur à la mouche.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici, il y a très peu de mes livres, parce que j'ai plus de 1500 livres, je crois, chez moi, dans ma bibliothèque en Sologne, et il y a effectivement à peu près toute la littérature qui existe sur le sujet de la pêche à la mouche. Et en haut de cette pile, il y a effectivement cet auteur américain formidable qui, un petit peu comme Gary Paulsen pour Le Grand Blanc, raconte cette aventure complètement débile qu'est la pêche à la mouche, parce qu'il faut bien dire ce qui est, c'est un art complètement débile qui consiste à passer des journées entières dans de l'eau froide, à glisser sur des cailloux avec une espèce de mouche artificielle pour attraper une truite qu'on va remettre dans l'eau une fois attrapée, et qui raconte ça avec une acidité, une justesse, oui, et une poésie qui est absolument remarquable. Chacun de ses livres, c'est un vrai délice.
Qui sont publiés chez Gallmeister, il y en a notamment un que j'ai lu qui s'appelle « Sexe, mort et pêche à la mouche ». Il a le sens du titre aussi.
Voilà, et il arrive merveilleusement bien à mélanger à la fois des très belles informations, descriptions sur la pêche à la mouche et des sujets bien plus vastes qui sont effectivement ceux qui font que lorsqu'on pêche des journées entières sur des rivières, et Dieu sait si ça m'arrive souvent, eh bien, on s'évade et on a... on va dire un rapport à la vie, je crois, qui est un petit peu différent du commun des mortels.
C'est ça, les bons romans sur la pêche à la mouche, c'est ceux qui arrivent à connecter l'art de la pêche à la mouche et la vie, finalement, et en faire une métaphore de la vie. Il y a « Et au milieu coule une rivière », pour citer le plus connu de Norman Maclean, bien sûr. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, cette poésie quand même qui se dégage de la pêche à la mouche, qui se dégage moins de la pêche à pied ou de la pêche au bouchon ou de la pêche à la dorade ou au bar en surfcasting?
Parce que c'est définitivement un art qui ressemble un petit peu à de la musique. C'est merveilleusement beau à voir. Et c'est profondément un art dans lequel il y a de la poésie, de la patience. Il y a cette féerie du geste, il y a une communion qui doit être absolument totale avec le milieu, parce qu'on cherche quand même à prendre les truites pour des idiotes et elles ne le sont pas du tout, c'est-à-dire à leur demander d'avaler un faux insecte pour un vrai, alors même qu'on sait qu'elles savent faire, par exemple, dans une rivière, la différence entre, et en un éclair, entre des centaines de sortes d'insectes. Et certains soirs, elles vont manger un insecte et aucun autre insecte. Et donc, il faut arriver avec une mouche artificielle à leur faire manger cette fausse mouche. Encore faut-il savoir quelle mouche utiliser, à quel stade. Enfin, tout ça est une espèce de folie qui fait que ces personnes-là sont définitivement atteintes d'une maladie qui s'appelle la pêche à la mouche et qui font, je crois, effectivement, qu'ils ont un certain esprit, on va dire, et une certaine approche de la vie différente des autres.
Et puis alors, on va terminer par lui quand même, un des maîtres. Vous avez Maupassant, mais alors en version Pléiade, Pléiade qui a vécu, qui a été beaucoup lu, un peu jaunie comme ça, très belle. Et ce sont les contes et nouvelles.
Oui, bah ça c'est fait partie de ces contes et nouvelles absolument extraordinaires que j'ai plaisir à piquer. Alors moi, c'est un livre dans lequel je pique un petit peu au hasard. En découvrant des textes que je n'ai pas forcément lus ou dont je ne me souviens pas. J'ai relu dernièrement, je crois, Pécasse.
Vous voilà. En avez des livres dans les grandes expéditions ou c'est vraiment du lest en trop, quoi ?
Bien sûr. Et bah, généralement, ce sont des livres qui répondent justement à un critère qu'on retrouve bien dans ce livre-là, c'est-à-dire le maximum de lettres dans le minimum de poids et de volume.
Celui-là, il est parti dans le Grand Nord ou pas ?
Il est parti dans le Grand Nord, oui. Et il est parti dans le Grand Nord à une expédition qui m'a amené à traverser toute la Sibérie en terminant sur la place rouge de Moscou avec mes chiens de traîneau, un moment inoubliable.
Bon, ben merci beaucoup de nous avoir donné un peu de voyage, d'évasion et de pêche à la mouche. Merci Nicolas Vanier.
Merci à vous.
Merci à Nicolas Vanier et je rappelle le titre de son dernier roman, Poli, c'est chez Ixo. Olivier Norek, vous êtes toujours avec nous, je rappelle le titre de votre dernier roman qui vient de sortir, Impact, chez Michel Lafon. Je me demandais, elle est comment votre bibliothèque à vous ? Il y a des polars partout ?
Alors je ne lis pas que des polars, déjà parce que j'étais flic déjà avant, donc des polars j'en ai vécu, maintenant j'en écris. Alors si en plus il faut que j'en regarde à la télévision ou que j'en lise, on va penser que je suis monomaniaque. Ou pas très intéressant. Donc j'ai quelques polars parce que vu que j'en écris, je fais beaucoup de salons littéraires, donc je rencontre aussi beaucoup d'autres auteurs de polars. Et quand on rencontre une femme ou un homme qu'on commence à aimer par son intelligence, par son caractère, eh bien on a très très envie de découvrir ses livres. Alors c'est vrai que là, depuis quelques années, je me nourris beaucoup beaucoup de polars évidemment, mais j'essaye.
À l'inverse, faut pas toujours rencontrer un type dont on aime les bouquins. Ça peut être décevant parfois.
Oui, il ne faut pas rencontrer les gens qu'on idolâtre. Mais si on peut apprécier quelqu'un et après découvrir qu'en plus il est artiste, ouais. Alors c'est le sens est plus agréable. Donc ma bibliothèque, c'est une bibliothèque qui se construit en fonction du temps. J'achète beaucoup de livres, j'en reçois beaucoup aussi. Et donc je lui donne un visage différent en fonction de ce que je fais. Là, aujourd'hui, elle est essentiellement remplie de bouquins sur l'écologie,
ah
des
oui,
bouquins
de
biologie. Oui, j'ai fait beaucoup de travail pour être sûr et certain de donner au lecteur, et c'est vraiment un contrat qu'on passe ensemble, tout ce que vous allez lire dans mon livre est vrai. Si vous voulez l'utiliser dans des conversations, vous pouvez, parce que tout ce qui est dans mon livre est vrai, vous n'êtes pas obligé de parler de mon bouquin, mais au moins vous pouvez garder ça pour votre culture personnelle.
Elle est dans le salon, dans le bureau, dans la chambre, la bibliothèque, un peu partout. Vous êtes du genre à accumuler ou vous triez sans arrêt ?
Depuis que j'écris, j'ai changé la structure de mon appartement, j'ai abattu tous les murs, et donc en fait j'ai un studio, au milieu de ce studio il y a un énorme bureau, et autour de ce bureau il y a une énorme bibliothèque. Et puis le reste, tout ce qui est cuisine, manger, dormir, ça essaie de trouver sa place comme ça.
C'est ce que j'aime bien chez Olivier Norek, il est total, il fait pas dans le détail. J'écris donc je détruis tous les murs, c'est parti. Belle allégorie d'ailleurs. D'autres livres, dans un instant, direction la librairie.